Nous fêtons cette année les 500 ans de l'affichage des 95 thèses de Martin Luther sur les indulgences, qui sonne le commencement de la réforme protestante. 1517 est en effet une année importante dans l'histoire de l'Occident chrétien, et Martin Luther est assurément une figure centrale de l'histoire de l'Église chrétienne d'Occident, qui a influencé de manière déterminante la religiosité occidentale. En 2014, un projet de l'Institut technologique du Massachusetts a étudié quelles étaient les figures de l'histoire mondiale les plus importantes en se basant sur la traduction des articles du site Wikipédia dans différentes langues ainsi que sur leur consultation. Or, dans le domaine religieux, Luther apparaît en cinquième position sur environ 520 personnalités d'importance. Il figure après Jésus, Moïse, Mohamed et Abraham, mais très loin devant Paul de Tarse, le roi Salomon et même la Vierge Marie. Et parmi les personnes qui ont compté dans l'histoire de l'Allemagne, seuls Einstein, Bach et Beethoven le dépassent, alors qu'ils laissent loin derrière Karl Marx et Goethe. C'est donc dire l'importance du personnage Martin Luther, à la fois pour l'histoire religieuse mondiale, mais aussi, plus modestement, pour l'histoire de l'Allemagne. Lorsqu'on s'intéresse à la place de Martin Luther dans l'histoire religieuse de l'Occident et à la réforme protestante plus largement, la première question finalement que l'on rencontre, c'est celle qui est définie classiquement sous le nom de cause de la réforme. Quelles sont au fond les causes de ce mouvement réformateur qui commence avec Luther au XVIe siècle? Cette question reste aujourd'hui très débattue parmi les historiens. Pendant de très nombreuses années et même des siècles, la thèse classique de l'historiographie, principalement protestante, c'était celle des abus, c'est-à-dire que on mettait en cause les abus qui avaient cours dans l'Église médiévale. On dénonçait le nombre de prêtres qui vivaient en concubinage, ces ecclésiastiques qui étaient plus soucieux de leur prébende, de leur enrichissement personnel que de l'âme et du sort de l'âme des fidèles. Bref, l'Église de la fin du Moyen-Âge était souvent décrite un peu comme la Rome des Borgia dans le roman d'Apollinaire. Or, on sait aujourd'hui que cette explication de la réforme par les abus de l'Église médiévale ne suffit pas. Un simple élément permet de montrer que ça n'est pas suffisant pour expliquer la réforme, c'est que bon nombre de ceux qui, à la même époque que Luther, dénoncent les abus, vont rester dans l'Église traditionnelle et ne vont pas rejoindre les rangs de la réforme. Et puis on sait aussi, depuis maintenant pas mal d'années et plusieurs études, que beaucoup d'ecclésiastiques, beaucoup de prélats et de responsables au sein de l'Église médiévale se soucient de leurs églises, des paroisses, et commandent des visites de ces paroisses pour tenter de mesurer la situation et de proposer des réformes. Mais en même temps, la réforme protestante n'apparaît pas non plus comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, comme on a souvent, dans l'historiographie catholique, tenté de le montrer pendant de très nombreuses années. En fait, plutôt que de parler de cause de la réforme, il serait sans doute plus judicieux de réfléchir et d'essayer de voir quelle est, au moment où Luther apparaît sur la scène religieuse occidentale, quel est le climat religieux, culturel de l'Occident chrétien. Pour une raison toute simple, c'est que la logique des causes induit l'idée qu'il y a au fond une sorte de mouvement inéluctable qui conduit nécessairement à Luther. Or, quand on étudie les faits d'un peu plus près, on se rend compte que la contingence, le hasard, a aussi joué son rôle, et c'est ce que on va essayer de voir maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Luther n'entend pas créer une nouvelle église, ni même d'ailleurs simplement réformer celle dans laquelle il vit. Pour Luther, il ne peut pas, au moment où il entre dans sa vie religieuse, y avoir d'autres églises que celle dans laquelle il vit, puisque l'église médiévale en Occident, c'est en quelque sorte la société. Être chrétien, c'est être un membre de la société occidentale, et être un membre de la société occidentale, c'est presque nécessairement être chrétien et membre de cette église. Le statut de chrétien, à cette époque-là, s'acquiert en définitive par la naissance et par le baptême. D'où, finalement, la question, quelle est cette église à laquelle Martin Luther, dont Martin Luther fait partie. L'église que connaît Luther prend ses formes institutionnelles et théologiques, grosso modo, au XIIIe siècle, et en particulier sous le pontificat d'un pape qui compte énormément dans le devenir de l'église chrétienne d'Occident, le pape Innocent III. Une des premières choses que pose Innocent III, c'est l'identification du pape, du souverain pontife, comme vicaire du Christ. Pour Innocent III, à partir d'Innocent III, le pape est le représentant unique terrestre du Christ et exerce sur l'Église la seigneurie du Christ. Je cite ce texte d'Innocent III. De même qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ fait homme, lui qui, rétablissant la paix entre le ciel et la terre, démantelait le solide appareil de leur division et rétablissait entre eux l'unité, de même, il n'y a dans son Église qu'une tête, commune à tous, tenant de lui son pouvoir et l'exerçant pour lui, en l'occurrence, celle du souverain pontife. L'autre élément qu'Innocent III met en place, c'est la suprématie du pape, et donc de Rome, sur l'intégralité de la chrétienté occidentale. Les princes, d'après ce que produit comme réflexion et comme texte canonique Innocent III, tirent en effet leur pouvoir de l'autorité du pape qui domine la chrétienté. Au prince, donc, le pouvoir, la puissance, le bras armé. Au pape, l'autorité, c'est-à-dire le droit de décider où et quand cette puissance, pouvoir des princes peut être exercée. Et puis, troisième élément, fondamental aussi, c'est la définition, sous le pontificat d'Innocent III, d'un certain nombre d'éléments concernant les sacrements de l'Église. Et c'est là un élément très important, là aussi, pour comprendre ce contre quoi la réforme va se dresser. Les sacrements qui lient les fidèles du berceau jusqu'au cercueil à l'institution de l'Église permettent en effet aux croyants d'avoir part à l'événement du salut qui est advenu en Jésus-Christ. Et ce faisant, en définissant les sacrements ainsi, c'est-à-dire comme le lieu qui permet d'entrer en contact avec le salut manifesté en Jésus-Christ, eh bien cette définition consacre le rôle du prêtre comme médiateur entre le fidèle et cet événement. Il n'y a pas de sacrement dûment célébré s'il n'est pas célébré par un prêtre dûment consacré. Donc on voit que c'est la participation à un sacrement administré par un type d'acteur ecclésiastique spécifique qui exerce un pouvoir spécifique, en l'occurrence le prêtre, qui fait la participation à l'événement du salut et non pas la conviction personnelle de l'individu. Là encore, la réforme va créer un changement de taille. Alors ce système de l'Église médiévale, tel qu'il prend forme au XIIIe siècle, entre très vite en crise au XIVe siècle, avec un épisode bien connu qui est celui du Grand Schisme. Au moment du Grand Schisme, qui dure de 1378 à 1415-1417, la chrétienté occidentale qui n'était censé n'avoir qu'une tête, va se diviser entre deux papes, puis, au fur et à mesure qu'évolue la controverse, entre trois papes, en fonction des allégeances des princes à tel ou tel pape. Et cette situation, bien évidemment, suscite un grand nombre de réactions, puisque Innocent III l'avait dit, la chrétienté est un corps qui n'a qu'une tête, dès lors que ce corps a plusieurs têtes, ce n'est plus le corps du Christ, mais c'est un monstre. Et donc, beaucoup de théologiens vont chercher à comprendre cette réalité, et certains n'hésiteront pas à dire que cette division est le résultat de l'œuvre du diviseur par excellence, du diabolos, c'est-à-dire du démon, du diable. C'est ce qui fait que certains théologiens, comme l'anglais John Wycliffe, vont remettre en cause la suprématie du pape sur la chrétienté, son rôle politique, et vont plaider pour une église dans laquelle le pouvoir, finalement, est plus partagé, non pas par les fidèles, mais en tout cas par des assemblées, par des conciles. Les thèses de Wycliffe vont faire des émules, et en particulier un, c'est le théologien, recteur de l'université de Prague, Jan Hus, qui est bien vite accusé d'hérésie, parce qu'il critique bien évidemment l'institution pontificale. Hus est convoqué en 1415 à un concile qui est censé résoudre le schisme, c'est le concile de Constance, et lors de ce concile, il est condamné pour hérésie et brûlé. Et c'est finalement autour du bûcher de Jan Hus que le grand schisme se résout, puisque l'on arrive enfin à déposer ces trois papes et à en élire un nouveau. Alors on pourrait penser bien évidemment que cette crise était une affaire passagère, mais on voit qu'à travers tout le XVe siècle, la volonté de réforme de l'institution continue de marquer les esprits. Parallèlement à ça, il faut aussi relever que la chrétienté occidentale connaît une crise de société extrêmement forte. Au XIIIe siècle, on est à une époque de forte croissance démographique. À partir du XIVe, cette courbe démographique va reculer sous l'effet d'épidémies, de famines. Et parmi les épidémies, bien sûr, il faut mentionner la grande peste de 1348-1349 qui emporte, selon les estimations, 30 à 40% de la population occidentale. Bien évidemment, ces crises de société qui rendent la mort plus présente dans l'esprit des gens contribuent aussi à une transformation des représentations culturelles, en particulier celle de la mort, puisque désormais la mort dans les représentations picturales est marquée par la déchéance physique, par la décomposition des corps. Cette transformation culturelle pousse aussi nombre de gens, en particulier dans ce contexte qui est celui du grand schisme, à envisager d'autres voies possibles de piété que la simple participation au rituel de l'Église institutionnelle. Et c'est pourquoi nombre de mouvements commencent à se développer à cette époque-là, qui mettent en évidence la nécessité d'une piété du cœur, d'une spiritualité plus personnelle, plus individuelle. Alors tout ça ne veut pas dire, je l'ai dit en introduction, que les responsables de l'Église de cette époque ne se soucient pas de leur paroisse. Et l'on le voit au fait que nombre d'évêques continuent d'essayer de réformer à leur niveau la vie de leurs églises. Et c'est ce qui fait que finalement l'idée de réforme, même à un niveau local, est déjà présente dans la chrétienté dès le XIVe siècle. Et c'est ce qui a fait dire à l'historien Pierre Chaunu que, au fond, avec le XIIIe siècle, commence un temps qui est celui, non pas de la réforme protestante, mais des réformes, la réforme protestante n'étant qu'une manifestation, parmi d'autres, de cette volonté de réforme. Alors une question qui pourrait bien évidemment se poser, c'est de savoir, mais au fond, que faisaient les théologiens, hein, ceux qui étaient censés penser la foi chrétienne à cette époque-là? Est-ce qu'ils étaient préoccupés finalement de cette situation? À l'époque de Luther, il y a au fond deux façons de faire de la théologie, soit que l'on appartienne à ce que l'on appelle la via antiqua, la voie ancienne, ou à la via moderna, la voie moderne. La via antiqua, elle se développe à partir, elle aussi, du XIIIe siècle, avec la redécouverte d'Aristote et l'application de sa philosophie dans le champ de la théologie. Alors pourquoi cet attrait pour Aristote que l'on constate par exemple chez un Thomas d'Aquin ? Eh bien parce que Aristote c'est au fond un outil intellectuel qui permet de construire un système des connaissances et une explication du monde dans une forme d'harmonie entre la foi et la raison. Et d'une certaine façon, la théologie de la via antiqua, ceux qu'on va appeler les thomistes, hein, qui se réclament de Thomas d'Aquin, c'est une théologie optimiste qui est marquée par ce grand siècle finalement qu'est le XIIIe siècle. Puis de l'autre côté, il y a la via moderna avec son penseur phare qui est Guillaume d'Ockham qui, elle, se développe à partir du XIVe siècle. Pour Ockham, et contrairement à ce que l'on a chez Thomas d'Aquin, Dieu est inaccessible et ne révèle de lui finalement que ce qu'il a envie de révéler. Et il est toujours possible que ce Dieu se manifeste dans l'histoire de manière surprenante. Et donc on voit bien que Guillaume d'Ockham est un théologien pour un temps de crise finalement, parce que comme l'on n'est plus sûr d'un certain nombre de choses comme on pouvait l'être au XIIIe siècle, eh bien il est logique que la théologie reflète cette insécurité au fond qui est celle de son siècle. Mais au fond, est-ce que ces gens-là se préoccupaient de la question qui va être celle de Luther, à savoir celle du salut ? Alors c'est un point important, et pour Ockham, il est clair que c'est la grâce qui fait le salut. De ce point de vue-là, il faut rompre avec une image qui a longtemps été celle des historiens protestants qui décrivaient au fond les théologiens médiévaux comme des gens qui ne s'intéressaient pas à la question de la grâce. Oui, pour Ockham, c'est la grâce qui fait le salut. Mais en même temps, Ockham affirme que l'être humain, le croyant, peut se préparer à la grâce. Et ses disciples vont beaucoup insister sur cette idée au travers d'une expression qui va faire, des émules, c'est l'expression « facere quod inseest », faire au fond de son mieux. Beaucoup de ces théologiens de la via moderna, dont Gabriel Biel, un Allemand que Luther va prendre régulièrement pour cible, estiment en effet que le croyant peut se préparer à recevoir la grâce s'il fait de son mieux, s'il y met le paquet, pour le dire comme ça. Mais on voit bien aussi ce qu'une telle théologie peut entraîner comme question. Est-ce que j'en fais vraiment assez ? Est-ce que je ne pourrais pas en faire plus ? Et s'il m'arrive de mourir avant d'accomplir tout ce que je suis censé accomplir, est-ce que j'obtiendrai quand même mon salut ? Quelle est finalement la voie la plus sûre pour moi d'obtenir mon salut ? Toutes ces questions qui se posent à la suite de cette théologie-là vont être celles de Luther à un moment donné de son existence. Il ne faudrait pourtant pas croire que malgré ces nombreuses crises qui vont encore être renforcées à la fin du XVe siècle par la poussée de l'Empire ottoman aux frontières de l'Europe. En 1453, Constantinople tombe entre les mains du sultan ottoman. En 1517, il conquiert l'Égypte et bientôt le nord de l'Afrique, ce qui le met aux portes de l'Italie. Le sultan d'ailleurs ira en 1529 jusqu'à pousser sous les murs de Vienne. Il ne faut pas croire donc que malgré ces nombreuses crises qui se renforcent à la fin du XVe siècle, le climat est totalement sombre. Et précisément, la chute de Constantinople en 1453 va avoir des conséquences positives, puisqu'elle va entraîner la migration vers l'Europe de plusieurs intellectuels occidentaux et va permettre aussi la redécouverte d'un certain nombre d'auteurs antiques qui avaient été jusque-là oubliés. Alors bien sûr, ce retour aux auteurs antiques n'est pas une nouveauté, il suffit de songer à Pétrarque pour s'en rendre compte. Mais il faut bien voir que la chute programmée de l'Empire romain d'Orient et de la chrétienté orientale sous les coups de boutoir de l'Empire ottoman va renforcer le mouvement de redécouverte d'un monde grec que, à l'exception d'Aristote, la chrétienté occidentale, parce que latine dans sa langue, a en bonne partie négligé. Et cette redécouverte des auteurs antiques va aboutir à la constitution d'un courant de pensée, de réseau d'intellectuels, d'une véritable sociabilité qui est celle de ce que l'on appellera bientôt l'humanisme, avec toute une série d'auteurs qui vont s'intéresser à la redécouverte, à la mise à jour, au fond, des auteurs de l'Antiquité latine, mais surtout grecque. Et ces auteurs, que l'on trouve d'abord dans l'Italie du Quattrocento, on va bientôt les trouver aussi dans l'Europe du Nord. Ils ont pour nom Thomas More et John Collett en Angleterre, Jacques Lefebvre d'Étaples en France, et bien sûr Érasme de Rotterdam, le prince des humanistes. Ce qu'il faut voir, c'est que l'humanisme, malgré cette volonté de retour à l'Antiquité, n'abandonnera jamais son identité chrétienne, bien au contraire, puisque les humanistes vont voir dans ce retour aux sources, dans ce retour à l'Antiquité, une planche de salut pour une chrétienté qui va au fond très mal. Et Érasme de Rotterdam lui-même va œuvrer pour ce retour aux sources de bien des façons, mais en particulier en 1516, un an avant donc l'affichage des 95 thèses de Luther, par une nouvelle édition du Nouveau Testament. Que fait Érasme dans ce texte? Il prend une série de manuscrits grecs du Nouveau Testament qu'il compile pour essayer d'établir la meilleure version du Nouveau Testament possible, et il propose, en regard de cette nouvelle version du Nouveau Testament grec, une traduction qui est la sienne et qu'il estime être plus pure que celle qui était jusque-là en circulation. Alors bien évidemment, cette entreprise va déchaîner les foudres d'un certain nombre de théologiens, d'abord parce que Érasme s'autorise à critiquer la Vulgate, la version non encore officielle de l'Église médiévale, de l'Église chrétienne, mais qui avait déjà acquis ses lettres de noblesse. Elle ne deviendra la version officielle latine de l'Église catholique qu'avec le Concile de Trente. Mais surtout, ce qui déplaît fortement, c'est cette idée qu'Érasme exprime dans la préface de son Nouveau Testament, à savoir qu'il faut désormais que le Nouveau Testament soit traduit dans la langue du peuple, en langue vernaculaire, pour qu'il puisse être accessible aux laïcs et pas seulement aux clercs. Et Érasme va très loin dans cette idée, puisqu'il dit il faudrait que les femmes, les Irlandais, les Écossais, c'est-à-dire ceux qui vivent à la périphérie de l'Europe, mais aussi les Turcs, puissent y avoir accès. Et ça, c'est quelque chose qui va à la fois déchaîner les passions d'un certain nombre de représentants de l'Église traditionnelle qui ne veulent pas en entendre parler, mais aussi les passions positives de bien des auteurs, parmi lesquels on compte bon nombre de réformateurs protestants, à commencer par Luther. Alors, cette révolution culturelle qu'est l'humanisme et qu'incarne Érasme, bien évidemment, n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu une autre révolution technologique, celle-là, à savoir celle de l'imprimerie. Bien évidemment, l'imprimerie et son succès sont dépendant d'une autre révolution qu'on oublie souvent, qui a lieu à la fin du Moyen-Âge, en particulier à la fin du XVe siècle, elle aussi, et qui est la révolution éducative. Beaucoup plus de gens, même si c'est une proportion relativement petite par rapport à celle d'aujourd'hui, beaucoup de gens accèdent en effet à la lecture et à l'alphabétisation, ce qui rend possible le succès commercial de l'imprimerie. Reste que l'invention de l'imprimerie en Occident, à la fin du XVe siècle, constitue bien une révolution médiatique qui impose un parallèle à bien des égards avec l'invention d'Internet à la fin du XXe siècle. De l'analyse de la production imprimée à la fin du XVe siècle, il ressort que c'est principalement la Bible qui est alors diffusée par le biais de l'imprimerie. Or, cette diffusion de la Bible, que ce soit le texte complet de la Bible, ou seulement le Nouveau Testament, ou seulement les psaumes, va avoir un impact sur les mentalités et sur la religiosité en Occident. Comme le note Jean Delumeau, une des conséquences de l'imprimerie, c'est que le prêtre devient de moins en moins nécessaire dans la relation du fidèle qui sait lire à son Dieu, dans la mesure où il devient possible à ce fidèle de connaître le contenu de la révélation chrétienne directement en étudiant la Bible plutôt que par le truchement du prêtre. Donc on voit bien que le savoir tiré des livres, et en particulier de la Bible, pénètre progressivement davantage dans les milieux domestiques et rend possible une orientation finalement individuelle ou en tout cas familiale de la piété, des opinions religieuses et puis aussi progressivement des opinions politiques et sociales, même si on est encore loin de l'opinion publique qui va se développer, lui, au XVIIIe siècle. Pour ce qui est de l'écrit plus largement, l'imprimerie, un peu comme Internet finalement, permet une diffusion et une préservation beaucoup plus grande des textes, de même qu'elle va engendrer une accélération de la communication et un décloisonnement de cette dernière. Donc ce n'est pas seulement ou ce n'est plus seulement par le biais des lettres ou bien d'ouvrages reproduits patiemment par des moines dans des scriptoriums que les intellectuels peuvent faire connaître leurs idées, mais c'est d'abord par le biais de traités qui sont imprimés, très largement diffusés et qui bientôt peuvent être réimprimés et à nouveau diffusés beaucoup plus loin. Donc on a un phénomène qui correspond un peu à celui qu'on connaît aujourd'hui à propos des changements de mode de communication avec Internet. Et cette transformation des modes de communication, c'est un des éléments centraux qui permettent d'expliquer la percée finalement de la réforme de Luther. Comme le note l'historien Thomas Kaufmann, il est difficile de surestimer la signification de cet aspect, l'imprimerie, pour la naissance du mouvement réformateur et pour le succès de Martin Luther. Alors justement, qui est Martin Luther et comment va-t-il interagir avec le climat que nous venons de décrire ? Martin Luther, qui à sa naissance ne s'appelle pas Luther, mais Luder, naît en 1483 à Eisleben, en Saxe. Il est le fils d'un mineur qui a réussi à atteindre un niveau social plus élevé et il entame une formation scolaire relativement classique avant, en 1501, de débuter des études à l'université d'Erfurt, où il va suivre l'enseignement de maîtres qui sont marqués par la pensée d'Occam et donc de la Via Antiqua, mais qui sont aussi ouverts à l'humanisme. Et donc, on voit que dès ses premières années de formation, Luther est ouvert aux questions de l'humanisme. Son père le destine au droit, mais, contre toute attente, en 1505, Luther entre au couvent des Augustins d'Erfurt. Alors la tradition veut que, au moment où il traversait un orage extrêmement violent, Luther ait cru perdre la vie et aurait prié Sainte Anne de le sortir de cet orage en lui promettant que s'il s'en sortait, il se ferait moine. Rien ne permet de vérifier la véracité, l'historicité de cet événement. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que à l'été 1505, au moment des examens, Luther perd un de ses meilleurs amis, qui décède donc de manière inattendue, peu de temps avant les examens, et qu'il est marqué par ce décès brutal d'un de ses jeunes amis. Et il est donc vraisemblable que face à la possibilité d'un trépas soudain, inattendu qui empêche ce que l'on appelle au Moyen-Âge la bonne mort, c'est-à-dire celle du chrétien qui prend le temps au moment de mourir de s'en remettre à Dieu, de faire le bilan de son existence, eh bien Luther est décidé de trouver un endroit où il avait plus de chances d'être dans de bonnes dispositions au cas où la mort le saisirait. Et cet endroit, c'est le monastère que beaucoup d'auteurs de piété médiévale décrivent comme la voie la plus sûre pour arriver au salut. En tous les cas, l'entrée au monastère de Luther est un véritable changement d'ambiance pour lui, puisqu'elle correspond avec une existence ou avec la découverte d'une forme d'existence beaucoup plus dure et beaucoup plus stricte que celle qu'il a connue jusque-là. Très vite, Luther est destiné par ses supérieurs à la prêtrise, et donc en 1507, il est fait prêtre et il célèbre le 2 mai 1507 sa première messe. Il va affirmer plus tard qu'au moment de prononcer ce qu'on appelle les paroles de consécration, il aurait été saisi par la crainte face à la majesté divine. Alors ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que dès cette époque, Luther entre dans une période de grave crise spirituelle qu'il va décrire par la suite de manière assez claire, mais malheureusement, cela 30 ans après les faits. Alors que nous dit Luther dans ses témoignages ultérieurs ? Il nous dit que, assailli par l'angoisse de ne jamais parvenir à trouver grâce aux yeux d'un Dieu dont il craint par-dessus tout la justice, il en serait venu à considérer toutes ses pratiques religieuses et spirituelles, et en particulier les pratiques de mortification, d'ascèse qu'il s'imposait, comme insuffisantes pour s'assurer la bienveillance de Dieu. Et c'est donc dans l'Écriture qu'il aurait découvert la réponse à ses doutes, à savoir que cette justice divine qu'il craignait par-dessus tout n'est pas la justice d'un Dieu qui juge les actions humaines, mais la justice que Dieu offre gratuitement, par pure grâce, aux croyants en vertu de sa seule foi. Et le passage biblique auquel fait référence Luther dans ce contexte-là, c'est Romains 1, 17, « Le juste vit de la foi ». Alors que ce récit soit le fait d'une réécriture ou bien soit bel et bien la réalité, ce qui est intéressant, c'est que la crise que Luther traverse et la réponse qu'il va lui donner est au fond tout à fait caractéristique de la piété du Moyen-Âge finissant. Très longtemps, on en a fait une crise, la crise d'un génie unique dans l'histoire religieuse. On sait désormais que ce n'est pas le cas. Un exemple suffit à le démontrer. C'est la crise que traverse la même année un autre ecclésiastique, Gasparo Contarini, qui, quelques années plus tard, sera lui l'un des grands cardinaux de l'Église catholique. Donc on voit bien que Luther n'est pas original. Là où en revanche cette crise et la réponse que Luther y donne ou qu'il dira lui avoir donnée est importante, c'est qu'elle marque le début d'un long processus de maturation intellectuelle, théologique et spirituelle. Et on vérifie cette évolution dans les différents cours que Luther va donner à l'université de Wittenberg à partir de 1512, parce que ses supérieurs estiment qu'il doit faire une carrière universitaire. Luther est en charge à Wittenberg du commentaire biblique et il va traiter depuis sa nomination en 1512 jusqu'en 1518 de plusieurs textes bibliques et l'on mesure dans à la lecture de ces commentaires qui nous ont été conservés, d'une part, l'attention que porte Luther aux outils exégétiques que mettent à disposition les humanistes. On voit très bien à partir de quand, par exemple, il utilise le Nouveau Testament d'Erasme qui paraît en 1516. Il va aussi utiliser d'autres textes comme les commentaires des psaumes du français Lefèvre d'Étaples. Mais la lecture de ces différents cours permet surtout d'identifier un tournant théologique autour de 1515-1516 dans lequel Luther en arrive à définir le salut comme une réalité extérieure à un être humain qu'il décrit comme incapable, en raison de son péché, d'accomplir la volonté divine. Le péché, pour Luther, n'est pas simple privation de la justice originelle de l'être humain, mais c'est une perte, une destruction de toutes les capacités de l'âme et du corps humain. Je le cite dans son commentaire de l'Épître aux Romains de 1515-1516, texte fameux, dans lequel Luther écrit « L'homme est courbé, recroquevillé sur lui-même, in curvatus in se en latin, au point d'infléchir vers lui-même non seulement les biens corporels, mais encore les biens spirituels, et de se chercher lui-même dans tout. Or cette courbure est maintenant devenue naturelle, c'est un vice et un mal naturel. » On voit bien donc que ce faisant, pour Luther, dans la radicalité de son propos, s'oppose désormais à l'idée selon laquelle l'homme aurait en lui les moyens de se préparer à la grâce. Rien ne peut tirer l'être humain de son péché, si ce n'est la grâce et donc l'action divine. Donc il y a déjà là, avant même les 95 thèses de Luther, une forme d'opposition à la théologie de la Via Moderna et d'auteurs comme Occam et Gabriel Biel. Alors bien sûr, Luther appartient à un ordre monastique, les Augustins, qui se réclament d'un autre théologien qui est le père de l'Église, Augustin d'Hippone, qui lui avait déjà insisté de la sorte sur la grâce. Mais on voit bien que chez Luther, il y a ici une forme de radicalisation de la pensée augustinienne de la grâce, dans la mesure où le Père Latin continuait, lui, de postuler la possibilité pour le croyant de participer à son salut, ce qui n'est plus le cas ici pour Luther, pour qui le salut n'est que l'œuvre de Dieu. Mais on mesure aussi, à ce qui vient d'être dit, que la réflexion de Luther, à ce moment-là de son histoire, de sa biographie, reste au fond limitée à des questions qui touchent à la question du salut. Il n'est pas encore ici question de réfléchir à ce qu'est l'Église, à ce qu'il faudrait pour la réformer, ni non plus à ce que sont les sacrements. Pour que Luther en arrive à ses réflexions, il va falloir une crise qui est celle des indulgences. Ce qui fait que Luther va développer sa réflexion théologique en intégrant bientôt la question de l'Église et des sacrements, c'est une crise qui s'ouvre en 1517, la fameuse crise des 95 thèses. En octobre 1517, Luther diffuse en effet 95 thèses portant sur les indulgences et leurs pratiques. Alors qu'est-ce que c'est au fond qu'une indulgence ? Souvent, on entend dire qu'une indulgence permettait de sortir de l'enfer et de gagner le paradis contre monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est au mieux une exagération que de le dire ainsi. En fait, les indulgences, au départ, concernaient des œuvres pieuses qui permettaient aux fidèles d'échapper et d'absoudre les peines terrestres infligées par l'Église. Donc ça ne concernait que les peines que le fidèle devait accomplir dans sa vie terrestre. La compréhension des indulgences va pourtant évoluer grâce à l'émergence d'un concept qui est celui du purgatoire. L'idée va en effet émerger que les indulgences pouvaient aussi concerner les peines qui étaient infligées aux défunts dans ce lieu-là et qui donc leur permettaient de réduire le temps qu'ils devaient passer dans ce lieu avant de gagner le paradis. Et au fil du temps, eh bien, l'Église a compris finalement le potentiel pécunier que recelait cette logique des indulgences. Et donc, on va progressivement remplacer l'accomplissement d'une œuvre pieuse par le versement d'une somme d'argent, même s'il était toujours exigé du fidèle qu'il passe par tout un processus de confession et d'absolution de ses fautes sous la conduite d'un prêtre. Il faut toutefois dire qu'en 1517, c'est-à-dire au moment où Luther s'en prend aux indulgences, le succès de leur vente commence sérieusement à décliner. On le voit en particulier en Allemagne, où les consignes qui sont adressées aux vendeurs d'indulgences par leur hiérarchie insistent beaucoup sur le fait qu'il faut convaincre les fidèles que c'est l'occasion unique d'extirper leurs proches décédés des tourments du purgatoire. Et donc on comprend que cette pratique, non pas tellement dans sa conception, mais dans précisément la façon dont elle est appliquée, ait pu choquer Luther, qui venait, quelque temps auparavant, de découvrir le message de la grâce absolue, de la totale gratuité du salut. Il faut tout de suite préciser que lorsque Luther s'en prend aux indulgences, il n'entend pas susciter un mouvement populaire. Les 95 thèses sont rédigées en latin. Elles ne s'adressent donc qu'à un public extrêmement restreint. Par ailleurs, elles sont formulées selon des canons très universitaires. Donc on voit bien que ce que Luther veut, c'est susciter un débat théologique entre spécialistes, entre membres de l'université. Il ne faut pas non plus surestimer la portée de ces critiques. Beaucoup d'historiens, catholiques d'ailleurs, qui se sont intéressés à ces thèses, ont montré que leur contenu était relativement orthodoxe pour l'époque. Ce qui va déchaîner la critique, c'est à la fois le ton de Luther, qui n'hésite pas à dire « il faut que le pape fasse ceci ou cela », mais c'est aussi et surtout une série de questions que pose Luther dans ses 95 thèses. Pourquoi est-ce que le pape ne libère pas directement toutes les âmes du purgatoire plutôt que de les faire payer? Pourquoi, si le salut est offert gratuitement comme nous l'apprend l'Évangile, est-ce que l'on continue à dire des messes pour les morts? Pourquoi est-ce que le pape ne renonce pas à construire la basilique Saint-Pierre de Rome pour offrir le salut aux fidèles plutôt que d'encaisser leur argent? Mais ce qui va surtout se révéler déterminant, c'est l'insistance de Luther dans les 95 thèses sur le fait que le vrai et le seul trésor de l'Église, c'est le Christ. Et que plus que la pratique de la pénitence, c'est-à-dire le fait d'aller à confesse, de recevoir l'absolution et de payer une indulgence, c'est la réalité intérieure de cette pénitence qui est centrale. Pour Luther, la pénitence, c'est d'abord une haine de soi qui est fondée sur la reconnaissance de l'être pécheur du croyant. Le pape, nous dit Luther dans ses 95 thèses, n'est donc pas en mesure de remettre les peines infligées par Dieu. Seul Dieu en est capable. Et donc très vite, ce texte, ces 95 thèses, dont on ne sait d'ailleurs pas s'il les a véritablement affichées, mais dont on sait en tout cas qu'il les a diffusées, vont engendrer une polémique aux implications bien plus larges que celles que Luther escomptait. On sait qu'en décembre 1517, elles sont réimprimées à Bâle et que dès 1518, elles le sont à Nuremberg. On voit déjà le fonctionnement de l'imprimerie intervenir. Elles vont être relayées bien vite par de nombreux pamphlets et bientôt elles vont être transmises à Rome par les responsables de la campagne des indulgences en Allemagne qui s'inquiètent des critiques de Luther et des conséquences de ces critiques sur la vente elle-même des indulgences. En octobre 1518, le pape lui-même, qui s'inquiète de cette situation, diligente en Allemagne un grand prince de l'Église, qui est aussi un grand théologien, le cardinal Thomas de Vio, dit Cajetan, pour tenter de ramener Luther à la raison. Cajetan, c'est probablement le premier à s'être rendu compte du potentiel explosif des idées de Luther. En effet, on dispose de ces notes de lecture d'un certain nombre de textes de Luther qui montrent qu'il a été rapidement persuadé du fait que la fondation de la certitude de la foi dans la seule parole du Christ, ce que dit Luther dans les 95 thèses, s'oppose frontalement avec l'idée selon laquelle le salut est fondé dans l'agir de l'Église. Cajetan a donc vu que d'un côté, pour Luther, c'est la foi en la parole du Christ manifesté dans les Écritures, alors que pour l'Église traditionnelle, c'est la foi dans l'action de l'Église à travers les sacrements. Donc Cajetan voit bien où se situe le problème, et on comprend donc que leur échange qui a lieu à Augsbourg en octobre 1518 tourne vite court et aggrave encore la confrontation entre Luther et l'Église. Cette confrontation est d'autant plus violente qu'en 1519 a lieu une dispute universitaire entre Luther et le théologien Jean Eck, qui en fait tourne très vite au procès, puisque Eck déporte subtilement la discussion avec Luther sur la question de l'autorité du pape au sein de l'Église et pousse Luther à défendre des thèses qui sont très proches de celles de Wycliffe et de Jean Hus, qui avaient été condamnés un siècle plus tôt. Eck finira en effet cette discussion en disant « Eh bien, mon cher Luther, tu viens de donner la preuve que tu es un hérétique. » En conséquence, le 2 mai 1520, Eck et Cajetan sont chargés par le pape de rédiger une bulle qui aura pour nom « Exsurge Domine » qui menace Luther d'excommunication. Affichée à Rome le 24 juillet 1520, elle parvient à Wittenberg au début du mois d'octobre. Et Luther y répond le 10 décembre en brûlant le texte de la bulle, ce qui revenait à excommunier à son tour le pape de Rome. En conséquence, en janvier 1521, Luther et tous ses sectateurs sont officiellement excommuniés par une nouvelle bulle qui a pour nom « Decet Romanum Pontificem ». Tout au long de la crise, les idées de Luther, et c'est un élément extrêmement important, ont été diffusées de manière extrêmement large, et ce, bien au-delà des frontières de l'Empire allemand, en Suisse, aux Pays-Bas, en France et en Angleterre. Alors il y a plusieurs raisons à cette diffusion, à ce succès du message de Luther. D'abord, Luther lui-même n'est pas exempt de responsabilité dans cette diffusion de son message, puisque très vite, il va commenter ses 95 thèses, commenter les réactions aux 95 thèses, critiquer les critiques, etc., etc., en se lançant dans une entreprise littéraire qui le pousse bientôt à quitter le latin académique pour l'allemand, pour la langue du peuple, et à passer d'un langage policé, universitaire, à un style parfois gouailleur, voire même satirique, à destination d'un public très large. Et on voit bien à ces textes la capacité qui était celle de Luther d'utiliser différents niveaux rhétoriques, différents modes d'expression. D'ailleurs, Luther n'hésitera pas à aller jusqu'à jouer sur le sentiment d'orgueil national allemand en dénonçant auprès de ceux qu'il appelle ses chers Allemands le pape italien vivant à l'aise dans son château romain. Bien sûr, deuxième explication, le message luthérien ne se serait pas diffusé s'il n'avait pas été relayé par d'autres écrits. Et c'est là qu'il faut mentionner ce que l'on appelle la guerre des Flugschriften, c'est-à-dire ces imprimés non reliés au petit prix de vente qui étaient rédigés en langue vernaculaire. Alors l'objectif des auteurs de ces pamphlets, de ces libelles, n'est pas de susciter la réflexion théologique autour des thèses de Luther, mais plutôt de jouer sur les sentiments et les convictions religieuses de ceux qui les lisent, et ce au travers de formes littéraires extrêmement variées, prédications, dialogues fictifs, lettres ouvertes. Le nombre de ces imprimés est extrêmement significatif. On estime ainsi qu'entre 1521 et 1525, la moitié des environ 10 000 libelles qui sont publiées entre 1500 et 1530, soit 5 000 libelles, sont publiées autour de l'affaire Luther. Donc c'est un chiffre extrêmement important, et quand on sait que l'un de ces pamphlets était généralement tiré à 1000 exemplaires, on mesure la diffusion de ces textes. D'autant plus que ces textes, bien sûr, étaient d'abord destinés à ceux qui savaient lire, mais on possède aussi de très nombreux témoignages qui montrent qu'ils étaient lus en public, très régulièrement, du haut de la chaire, dans les maisons, dans les tavernes, etc. Et enfin, ces textes étaient souvent illustrés. ce qui, là aussi, permettait une communication auprès de ceux qui ne savaient pas lire. Donc, on voit bien à cet élément que l'imprimerie joue un rôle extrêmement important dans le relais des idées de Luther, pas seulement à travers ce qu'écrit Luther, mais aussi de ce que les gens en font. Alors bien sûr, ce message de Luther n'aurait pas connu ce succès s'il n'y avait eu qu'une affaire de communication. Le troisième élément important dans la diffusion du message de Luther, c'est le message lui-même. Luther, en effet, en appelle, de manière très novatrice pour l'époque, à la conscience des individus. Il n'hésite pas à écrire « Il vous faut décider maintenant pour ou contre mon message parce qu'il en va de votre salut. » Il écrira ainsi quelques années plus tard dans un de ses traités « Chacun court son propre risque en choisissant sa manière de croire et chacun doit veiller lui-même à ce que sa foi soit correcte. » Bien évidemment, cette prédication, ce ton extrêmement fort, va engendrer un mouvement extrêmement large qui dépasse et de loin les frontières de l'Allemagne. Reste que les circonstances politiques allemandes jouent un rôle aussi dans le développement de la réforme de Luther. Et c'est là qu'on retrouve ce que je disais en introduction, à savoir la contingence. En effet, le pouvoir impérial allemand à cette époque-là est relativement fragile parce que le vieil empereur Maximilien veut faire élire son petit-fils comme roi des Romains, ce qui lui ouvrira la porte du trône impérial à sa mort, et donc il est obligé de ménager un certain nombre de responsables politiques allemands, dont le duc de Saxe, qui protège Luther. C'est ce qui fait que pendant ces années 17, 18, 19, le message de Luther va pouvoir se répandre sans que le pouvoir impérial n'y mette son nez. En 1519, pourtant, les choses changent, Maximilien meurt, Charles, le petit-fils, accède au trône impérial sous le nom de Charles Quint, et très vite, Charles Quint se révèle comme un opposant extrêmement fort de Luther. Le 6 mars 1521, Luther est même convoqué par le nouvel empereur pour s'expliquer devant la diète impériale qui se tient à Worms. Alors Luther est convaincu qu'il va pouvoir s'expliquer et montrer qu'il n'est pas hérétique, mais très vite, il s'aperçoit que ça n'est pas le cas et que ce qu'on lui demande, c'est de révoquer ses idées. Après une nuit de réflexion, Luther va se présenter devant l'empereur et après avoir justifié son propos, au moment où on lui demande une nouvelle fois « Est-ce que tu es prêt à révoquer tes idées ?», il répondra qu'il ne peut révoquer ses idées que si on lui démontre par la conscience ou par la raison ou par les Écritures qu'il s'est trompé. Et il aura cette phrase « Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, il me sera impossible de révoquer mes idées, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je ne puis autrement, me voici, que Dieu me soit en aide. » Ce n'est bien sûr que beaucoup plus tard que ces fameuses phrases de Luther à la diète de Worms en avril 1521 vont devenir le symbole du soulèvement d'une conscience individuelle contre une autorité humaine, en l'occurrence celle de l'empereur. Il n'en reste pas moins que avec ces événements, qui vont bien évidemment en engendrer d'autres, puisque la réforme initiée par Luther va se répandre en Suisse, en France, en Angleterre, en Europe de l'Est, Luther met un terme, sans le vouloir, à l'unité de la chrétienté occidentale. Jamais plus cette unité, qui avait été imposée progressivement, ne sera refaite. Bien évidemment, d'un certain point de vue, c'est quelque chose qui peut être déploré, puisque l'unité du corps du Christ a été déchirée. Ce serait la lecture théologique de l'événement, ou une certaine lecture théologique. Mais on peut aussi avoir une autre lecture, qui est celle de l'histoire sur le long terme. Parce qu'au fond, ce que Luther a fait, sans le vouloir, au travers de son action et de sa pensée, c'est mettre en avant un principe qui va se révéler déterminant, celui de la foi comme moteur de toute religiosité. En définissant la foi comme l'origine du salut, c'est-à-dire en affirmant que ce n'est pas sur la participation à des actes, à des rituels que repose le salut, mais sur une conviction individuelle, personnelle, subjective que repose ce salut, eh bien Luther a finalement ouvert, sans le vouloir, le chemin vers la modernité religieuse. Et par son action et par ses idées, par son opposition aussi à l'autorité de l'Église et par conséquent aussi par la création à sa suite des églises protestantes, puis le développement de très nombreux courants parallèles à ces églises protestantes, Luther a imposé, sans le vouloir, la pluralité et d'une certaine façon le pluralisme au sein de la religion chrétienne occidentale.